chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Dans un article illustré par certains poèmes de Sissi, Catherine Clément racontait l'histoire incroyable et romanesque des manuscrits de l'impératrice d'Autriche remis en 1951 dans des cassettes au président de la Confédération helvétique, puisque la souveraine avait été assassinée en Suisse. Commença donc le jeu des cassettes, qui toutes contenaient ses poèmes. La première fut remise à Ida Ferenczi, sa dame d'honneur préférée, qui devait la transmettre à Charles Théodore, l'un des frères de Sissi. La deuxième était destinée au duc de Liechtenstein et cachée dans ses appartements en attendant la mort de Sissi. La troisième, mais combien y en eut-il en tout ? Alla à des amis au nom tenu secret. Tous les dépositaires devaient acheminer leurs cassettes au président de la Confédération helvétique. Aucun ne connaissait l'existence des autres. On n'est pas plus dissimulé que cette impériale poétesse, ni plus imprévoyant. Au vrai, un seul des coffrets vagabonda, le deuxième, celui de Liechtenstein. Après la mort du duc, en 1908, la cassette revint à la famille, qui, ne sachant que faire, la confia au tribunal civil de Brune, capitale de la Moravie. En 1914, surgit un imprévu majeur, la Première Guerre mondiale. 4 ans plus tard, l'Empire des Habsbourg avait entièrement sombré. Démembrée, l'Autriche était devenue une république et la ville de Moravie avait retrouvé son nom tchèque, de Brune en Brno. La tourmente fut telle que l'oubli recouvrait les coffrets. Entre-temps, pour des raisons administratives, la cassette Liechtenstein avait fait un aller-retour entre Prague et Brno.
Thank you.
Lors de la rencontre de l'empereur avec le tsar de Russie Alexandre III à Krems, en août 1885, l'impératrice Élisabeth était présente, une des rares occasions où elle fit une apparition officielle. La rencontre eut lieu dans le palais d'été de l'archevêque d'Olmutz et revêtit une solennité particulière à cause de la présence du ministre des Affaires étrangères et des princes héritiers. Elle était destinée à faire une démonstration des liens amicaux unissant l'Autriche et la Russie en face des conflits qui s'aggravaient dans les Balkans. Élisabeth et son fils Rodolphe, sous l'influence de l'ancien ministre Kuk des Affaires étrangères, Giulia Andrassy, critiquèrent vigoureusement cette rencontre et ne croyaient pas aux protestations d'amitié des Russes. Élisabeth se moque, dans ce poème, de la famille impériale russe qu'elle représente comme une horde de singes, avec Alexandre III en cynocéphale à leur tête. Krems. Ô muse, que dis-tu de Krems ? Ici, mon Pégase devient un dromadaire. Oui, en vérité, il se fait chameau pour porter tous les singes qu'il torture son dos. Un babouin trône majestueusement en souverain. En vêtements étrangers, fort, sérieux et grave. Grande bête venue des vastes plaines d'Asie, il a conscience de sa valeur malgré sa bande. La petite Guenon, à côté de son époux, fait gentiment la révérence au peuple qui l'acclame. Deux petits singes, garçons bien faits comme leur père, apparaissent en uniforme militaire. Toute une armée de singes décorés s'affaire tant qu'ils peuvent, ricanent, nasillent. En frac et uniforme, voici les macaques, médaillés, bourdonnants et caquetants. La bande amuse plus d'un petit âne diplomate. L'aigle à deux têtes n'en a que de la honte. La pièce est terminée. Slava ! Vive les singes ! Je vais dormir. Vienne, 1931. Pour la première fois paraissent des articles sur les poèmes cachés de l'impératrice. À croire le signataire, fort d'un titre d'exécuteur testamentaire du duc de Liechtenstein, le coffret contiendrait la lettre d'adieu de l'archiduc Rodolphe à sa mère. grand émoi dans le Landerneau viennois, puis grand oubli, comme toujours, à Vienne. En 1938, un dénommé Hitler se chargea de réduire l'Autriche à l'Allemagne. Aucune nouvelle des coffrets. 1949, la date approche. La piste Liechtenstein était assez sérieuse pour alerter l'Académie des sciences à Vienne, qui désigna 7 de ses dignitaires pour l'ouverture solennelle un an plus tard. Mais le vieil imprévu veillait au grain. La cassette Liechtenstein était de l'autre côté du rideau de fer. La Tchécoslovaquie communiste refusa les visas et l'objet. La cassette refit le chemin, Brno, Prague, puis Prague, Vienne. Communiste ou pas, l'ancienne tradition de la bureaucratie impériale fit son œuvre. 4 ans de bordereau. À la fin de son voyage en Angleterre, Élisabeth fit une visite officielle à la reine Victoria. Extrait de la chronique de cour de la reine Titania. Mais voyez, nous voguons vers le rivage, nous attendent les voitures de la reine. Ah, comme importune est cette visite! Maudite soit la coutume, coupable de cette invention. À présent, nous nous arrêtons. Au pied de l'escalier, avec bonnet et traîne, voici la petite, la grosse, l'orgueil dans le regard, consciente de sa dignité, car elle a tenu 50 ans le sceptre dans ce pays. Aussitôt j'ai reconnu que c'était la reine. Elle se hisse avec grâce sur la pointe des pieds et me donne avec condescendance un baiser de sœur. Me voir ici lui est sûrement une satisfaction. Elle aime que de tous les coins de la terre, le monde vienne à elle en pèlerinage, pour lui exprimer dévotement son adoration, comme si elle était une idole terrestre. En 1953, l'Académie des sciences procéda à la cérémonie et découvrit qu'elle n'avait pas le droit de lire les poèmes. Destination Berne, bien obligée. Entre-temps, le président Ether avait reçu la première cassette, transmise par Ida Firenzi aux frères de Sissi et retransmise à la Suisse par son fils Louis. Rien de plus simple. Tout eût été en ordre sans les scrupules du Conseil fédéral et de son président. Le silence retomba sur les coffrets d'Elisabeth, dont deux étaient désormais propriété du gouvernement suisse. 1977. Meilleure spécialiste de l'impératrice, l'historienne allemande Brigitte Hamann obtint du président Fürgler l'autorisation de publication. En 1984, excellemment commentés, les poèmes virent enfin le jour, aux éditions de l'Académie des sciences à Vienne, pour faire bonne mesure. 24 ans de retard sur la date fixée par Sissi et toujours le même imprévu. En 1984, où dénicher les descendants des condamnés politiques les plus méritants ? La moitié de l'Empire des Habsbourg était de l'autre côté du rideau de fer. Le président Fürgler réunit le Conseil fédéral, qui prit la décision de verser les droits d'auteur de Sissi au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, émanation de l'ONU. Sissi a-t-elle songé un peu à cet hymne impérial qui sonnait si bien sur les grandes orgues de la cathédrale de Vienne lorsqu'elle remontait la nef dans sa somptueuse robe de mariée pour rejoindre Franz qui l'attendait dans le chœur sous les ors baroques de l'autel. Pour la fête de l'empereur François-Joseph, le 4 octobre 1886, la famille impériale s'est brièvement réunie à Ischl. Motif pour Élisabeth d'écrire ses vers à son époux. Laisse-moi seule. Laisse-moi seule, laisse-moi seule, c'est maintenant le mieux pour moi. Tout ce que j'ai eu ne peut plus jamais être. Les restes sont trop peu pour moi. Je t'ai sans doute trop aimé. Je n'aurais pas dû te le montrer. Maintenant, tu m'as attristée à mort. Et pourtant, je ne te garde pas rancune. Tu t'es toujours montré caressant quand tu avais un but devant les yeux. Mais quand tu l'avais atteint, je pouvais m'en aller. Je n'étais plus bonne à rien. Je m'apprête sérieusement à partir. Et reviendrai jamais ? Quel mal amer tu m'as fait. Mes chants le diront un jour.
Thank you.
En revenant d'Angleterre, Elisabeth se rendit dans sa Bavière natale, à Bad Kreuth, au bord du Tegernsee. Là, elle retrouva non seulement son impérial époux et sa plus jeune fille, Marie-Valérie, mais aussi les nombreux membres de sa propre famille, la branche ducale de la maison Wittelbach. Elle écrivit alors « Comme Ponce Pilate dans le Credo, je suis arrivée sous le joug familial, car fuir la famille fut toujours mon envie. Ma mère, c'était la liberté. Autrefois déguisée en coucou, elle m'a déposée dans un nid étranger. Ainsi est arrivé ce malheur. Souvent, je me sens dévorée de nostalgie pour ma mère liberté. Mais en vain. Mes ailes retombent, sans force et pesantes. Pour moi, je la reverrai toujours dans sa robe de tulle blanc, rebrodée de diamants. Des édelweiss de diamants aussi, dans sa longue chevelure. » Marie-France Guimard-Roche vous retrouvera à Versailles ou dans un autre palais pour une autre émission de Bienvenue chez le Roi, enregistrée et réalisée par Émilie Glory dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel.